Je vous passe. Bien. Je reprends. Regardez ce détail. Enfin, c'est pas vraiment un détail. C'est quelque chose de très important. Mais il me semble que là, on voit quelque chose de très très précieux. Là, je pense qu'on est au cœur vraiment de notre tradition. On ne parle pas dans notre tradition l'homme, la femme, le couple, l'homme vient de Mars, la femme de Vénus. C'est vrai, on n'a pas une vision conceptuelle des choses. C'est avec des détails. À l'Arik, là, on est dans le Shulchan Aruch. Et c'est à travers des détails de ce qu'on doit faire ou pas faire que que se posent en vérité les enjeux fondamentaux. On ne va pas poser les enjeux fondamentaux comme un philosophe. C'est tout à fait une autre démarche.
Mais ça va de soi, quoi. Enfin,
comment
ça, non, mais ça va de soi. Vous dites que qu'il n'y a pas de poser, mais souvent dans les cours, on nous donne aussi des préceptes. Hein, faut pas croire.
Oui, non, mais moi, je ne vais pas dans ces cours.
Vous nous dites qu'à travers les détails, on arrive à voir la vision de la Torah de l'homme et la femme, c'est ça ?
Et d'ailleurs, les rabbanim, ils nous conseillent de lire Mars et Vénus. Il y a beaucoup de rabbanim qui conseillent de lire. Je vous assure, c'est vrai.
Non, mais moi aussi, j'ai lu Mars et Vénus, machin. Regarde, on ne s'est pas compris.
Non, mais j'ai compris ce que vous voulez dire.
Moi, je ne sais pas ce que j'ai compris, ce que j'ai dit.
Vous avez dit que la Torah ne pose pas les
concepts. C'est pas posé en tant que soi, mais en fait, ça va de soi par rapport à la halakhot qu'on nous donne.
C'est par rapport au détail de la halakha qu'on voit la vision du couple, ça, enfin un peu. Parce que la vision de la femme et de l'homme, c'est ça.
Oui, c'est-à-dire c'est à travers ces détails. Si vous voulez, je reprends. Là, on est dans le Shulchan Aruch. Souvent, pour aborder une fête, mon expérience me montre qu'il faut faire les halakhot. On pourrait dire non, il faut lire des livres sur la sortie d'Égypte. Il y a des livres, il y en a. Le Gvurat Hashem du Maharal, le Prix de Tzadik de Rabbi Tzadok HaKohen, il y a plein. Mais personnellement, je préfère faire les halakhot. D'ailleurs, dans la Gemara, dit que 30 jours avant la fête, en particulier Pessah, on étudie les halakhot. C'est les halakhot qui vont nous faire rentrer, en vérité, pas tant dans la pensée abstraite que, je dirais, la pensée en situation. C'est ce que nous, on a vu tout à l'heure aussi, au niveau de la Esseva. On doit exprimer ce soir qu'on est libre. Alors, viens, Pierrot, va boire un coup. On est libre. Ouais, on est libre. Ouais. Non, les sages disent pas, non, on n'est pas libre, comme ça. Non, c'est pas comme ça. Tu es obligé de faire ceci, tu es obligé de faire cela. C'est à travers des détails de gestes que les enjeux vont se poser. Pas les enjeux vont se poser que intellectuellement, mais se poser même dans notre existence. Et que vont être décortiqués. Ça, c'est quelque chose de très, 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 je crois, très particulier. C'est pour ça que la base de la vie juive, c'est ce qu'on appelle la halakha. On va voir cette halakha, ça c'est le premier avis, il va y avoir d'autres avis. Ça c'est le premier avis. Premier avis. Première explication, une femme au fait de son bien ne sait pas de s'accouder à cause de la prévention de son mari et qu'elle lui a sujetti. Première chose. Deuxième explication rapportée par Rashbam, il rapporte le Sheltot de Rav Achai Gaon qui explique différemment. L'avdar kayou des nachés les misga. Ce n'est pas l'habitude des femmes. les femmes de sa culture.
Dans le sens, c'est pas joli, ou dans le sens, même les femmes, même les femmes libres, ça ne coûte pas, donc on ne s'accoute pas.
L'arbre d'arcaillou des nachés, les miska.
C'est pas leur habitude.
C'est pas
pudique.
Il dit pas que c'est pas pudique, il dit c'est pas féminin, pas je sais pas. Vous l'avez dit, c'est un peu.
C'est une réalité.
Voilà. Il dit, alors, maintenant, une femme khashuva, alors on va voir. Alors, le Talmud dit, si c'est une femme importante, on comprend qu'une femme, a priori, comme les Chachamim comprennent, une femme, sa vie, c'est son mari. Donc, j'ai pris avec mes élèves j'ai étudié ça avec des talmidim. Il y a une femme elle dit à son mari, bon ben chéri, je reviens demain matin, il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Mais ça te regarde pas. Comment dire, maintenant le contraire, comment?
C'est
le contraire, ça plaît pas, hein.
Le contraire, c'est moche aussi, hein. Les deux sont pas
bien. Ah, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais disons, mais au niveau, au niveau, je dirais.
Mental, ça fait moins.
Non, ça peut être dégoûtant. Mais au niveau, je dirais, profond, c'est pas la même chose. C'est pas que. Alors, c'est vrai qu'il y a des abus. Comme il y a des abus dans la société moderne, on essaie de faire qu'il n'y ait pas d'abus. D'ailleurs, c'est intéressant. Aujourd'hui, les hommes politiques, c'est de la rigolade. Parce que un vrai homme politique, je dirais, c'est Kadhafi ou El-Assad. Ça, c'est les vrais hommes politiques. Quelqu'un n'est pas content, prend la Kalachnikov, on tire dans le tas. Mais alors, comme on voit que c'est horrible et que tout le XXe siècle a été... ravagé par des dictateurs, alors on se dit maintenant, l'homme politique, moins il en fait, mieux c'est.
C'est le chef de famille.
Voilà, c'est ça, c'est traditionnellement. Alors, on va voir ensemble comment Maïmonide, je vous ai passé la photocopie, comment Maïmonide conçoit les relations de l'homme à l'égard de sa femme et de la femme à l'égard du mari. C'est dans le livre d'Alaha de Rambam. Hein. C'est l'Alaha Yutet, donc c'est sur les lois du mariage.
Vous voyez, il y a des préceptes qui existent. Hein, femme.
Non, mais c'est des Alachot. Ce qu'on va voir, c'est aussi des Alachot. Hein. C'est pas des conceptions, c'est des Alachot. D'ailleurs, regardez le texte Yud-Tet, comme ça, c'est dans le Mishneh Torah de Maïmonide. Alaha Yud-Tet. Vechen tzivu chachamim. Donc c'est au niveau donc, des obligations de l'homme à l'égard de sa femme et de la femme à l'égard de son mari. וכן ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד. Donc, avant de faire ça, pourquoi on va voir ça? Parce que nous, quand on voit que la femme est assujettie à son mari, qu'on voit le mari, ouais, c'est un gros salaud, ouais, et que la femme, il arrive à la maison, il dit, journal, ouais, la commande de la télé. Mes pantoufles.
Charentaise.
Mes charentaises, bobonne. Alors, non, mais c'est comme ça qu'on le voit. Alors, on va voir comment les Chachamim considèrent. Mais comment on considère au niveau halakhique, Et c'est ce que Rambam dit. Chensivu chacham. Nos maîtres ont ordonné. Si vous, Chachamim, nos maîtres ont ordonné. Chez Iye, Adam, me chabed et ishto yoter megoufo, ve oava kegoufo. On va y aller doucement. Hein. On va y aller doucement pour apprécier chaque nuance. Si on va rapidement, c'est pas intéressant. Nos maîtres ont ordonné. Chez Ié, Adam, me chabed et ishto, yoter megoufo, veoava kegoufo. Nos maîtres ont ordonné que l'homme doit honorer sa femme plus que son propre corps et qu'il l'aime comme son propre corps. Qu'est-ce que ça veut dire,
yoter megoufo?
La première fois, c'est chabed.
Plus que les son respect, corps.
Et l'aimer comme le corps.
Comme son propre corps. Qu'est-ce que ça veut dire en français, ça?
En français,
le
ressentir les manques de sa femme comme si c'était ses propres manques.
Comment?
C'est quand même l'histoire de la femme. C'est l'histoire comme
les blessés, l'égalité alors.
Regarde, elle rigole. Qu'est-ce qui vous fait rire tout d'un coup?
C'est pas comme l'histoire. Si, donc.
C'est une obligation de faire forcément.
Là, on est
avec les gens. Doucement, doucement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il doit l'honorer.
C'est-à-dire qu'il doit l'embrasser, tout ça, lui faire des câlins.
Non, plus que son propre corps, ça veut dire. Il doit l'honorer plus que son propre corps et l'aimer comme son corps.
Il doit devancer son désir. Si un homme qui sait que sa femme le désire,
elle d'abord
a l'obligation de la satisfaire.
Non, d'accord, doit faire son juste. C'est juste. C'est pas forcément le sujet traité ici. C'est traité ce que vous dites. Hein. Non, je pense l'aimer comme son corps. C'est-à-dire chercher son bien comme il cherche son propre bien. L'aimer, c'est pas seulement. Ça veut dire. Regardez.
L'aimer, prendre soin d'elle, prendre soin d'elle.
Par exemple, il lui dit je t'aime, je t'adore. Il lui chante des chansons de Bob Hazam. Ouais. Oui, maintenant, il va au resto, il voit, il y a un truc super sur la carte. Il dit, et le garçon, il dit, il reste qu'une seule part. Alors,
je la prends.
Et il la prend pour lui. Évidemment.
Ça tombe bien, c'est mon plat préféré.
Évidemment, c'est mon plat préféré. Alors là, ça posera problème. Alors les Chachamim disent, il doit l'aimer comme lui-même. Ça veut dire, Nachmanide dit, ça veut dire aimer. Aimer, c'est pas seulement se regarder comme des chiens de faïence. Aimer, c'est chercher le bien d'autrui.
Oui, c'est ça.
C'est ça ce que ça veut dire. C'est comment dire, c'est chercher le bien. Il doit, de la même manière qu'il cherche
le
bien pour lui, il doit chercher de la même manière le bien pour elle. Mais par contre, l'honneur, c'est, je pense, que c'est le confort. C'est-à-dire que il doit se soucier de son bien-être plus que son propre bien-être. Parce que les Chachamim considèrent que le bien-être est premier pour une femme que plus que pour un homme. Un homme ne se rend pas toujours compte de la nécessité. Comment dire Alors là, c'est une obligation de l'honorer, c'est-à-dire de par exemple, s'ils arrivent d'un voyage, c'est une obligation qu'ils s'occupent d'abord de lui faire un café avant de se faire un café pour lui. Ça, c'est ça, l'honorer, c'est-à-dire s'occuper de son bien-être. Et c'est ce qui va continuer. Vimie Shlomamon, regardez ça, c'est des halachot. Vimie Shlomamon, marbe betovata que fi amamon. Il doit multiplier dans son bien-être à elle selon ses moyens. C'est-à-dire, il ne doit pas être radin dans ce qu'elle a besoin.
C'est d'abord elle.
Il ne doit pas être radin. S'il a de l'argent, c'est d'abord pour s'occuper de son bien-être à elle. Obligation Continuons. Vélo y a-t-il aléa emma yetera ve iye ima veye diburo ima benachat vélo ye atsev vélo rogez. Il ne doit pas mettre une trop grande tension, pas un stress, pas emma yetera, pas de tension trop. Veye diburo ima benachat. Il doit lui parler doucement. Ça rigole tout d'un coup. C'était drôle.
Pour une fois, ça nous a.
Non,
c'est bien, c'est gentil, tout doucement.
Non, mais c'est pas, c'est une obligation. C'est-à-dire, ici, ouais. C'est dans la livre de loi.
Ouais, ah bah,
il doit parler. Ça veut dire. Vélo Yatsev, il ne doit pas être renfrogné. Vélo Rogues ni énervé. Par exemple, ils partent. Un mariage. Non, t'es encore pas prêt, on appelle Jalousie. Mais dis-moi, on est arrivé au dessert ou quoi? Mais c'est. Non, mais c'est une heure. 22h47, t'es pas prête là. Non, mais. Non, mais t'es franche, mais t'es débile ou quoi? Je comprends pas. Ça, c'est interdit.
Il y en a pas mal, on devrait leur montrer.
Il faut l'encadrer, c'est.
Mais c'est de la halakha. Non, mais c'est pas des. Regardez, non mais. Mes amis, c'est très important, c'est de la halakha. Maintenant, dans ce contexte, la contrepartie.
Mais attendez, mais tout ça, c'est pas des choses qui concernent la relation avec autrui tout court, pas seulement avec son épouse.
Oui,
on n'est pas censé être gentil avec l'autre, ne pas s'énerver, ne pas être renfrogné, ne pas.
Oui, non, bah, c'est pas l'aimer, pas l'aimer comme tout
le monde. Non, mais ça, on l'est naturellement, on est sympa avec les autres, on rentre à la maison, c'est la catastrophe. C'est connu. Non, mais, on va dire, c'est connu, il y a des gens, ils sont hyper sympas. Ouais, ils rentrent à la maison,
c'est des tyrans. C'est,
comment ça s'appelle là-bas? Homs. Ouais. Les bombardements, comment ça s'appelle? Ouais, c'est ils rentrent chez eux, c'est Homs. C'est avec crime contre l'humanité. Non, mais, c'est à la limite, c'est plus facile d'être sympa avec les autres, ça nous engage pas.
Puis ça dure pas longtemps.
Ouais, c'est ça. Ça dure pas longtemps. Alors continuons. La lachaka. Vechen tzivu chachamim ala isha. De même, les chachamim ont ordonné maintenant sur la femme. Shetiye mechabed. Alors regardez les mots de Maïmonide. À la fois, Maïmonide est extrêmement précis et toujours une pointe de poésie aussi. Vechen tzivu chachamim ala isha. Nos sages ont donné sur la femme qu'elle honore son mari incroyablement.
On devrait encadrer ce texte.
Ah oui.
Non, c'est comme, il y en a qui disent, il y a des femmes qui disent, mon mari et moi c'est un, moi c'est un et lui c'est zéro. Alors.
Ça fait 10.
Alors, en tout cas, ici, nos maîtres ordonnés, regardez cette expression de Rambam, non, pour comprendre ce que dit dans la lachot qu'on a vu tout à l'heure. Chachamim a ordonné sur la femme qu'elle honore son mari de manière extraordinaire. Veillez-lo aléa mora, et qu'elle ait à son égard une appréhension. Vetase kolmasea alpiv. Que tout ce qu'elle fait sur ce qu'il dit. Veillez Benéa Kemosar au Meler. Et qu'à ses yeux, ça soit comme un prince ou un roi. Malechet Betavat Libo ou Macheket Kol Sheisna. Elle va dans la recherche de son désir à lui, de son cœur. Et elle le prémunit de ce qu'il haït. Zehu derer benot Israël, bené Israël akdoshim, atorim, bezivugam. Ça, c'est la manière d'être des filles d'Israël et des garçons d'Israël, kedoshim, saints, purs dans leur couple. Ubedrachim elu ye yeshuvam nae ubeshubar. Et c'est par ces chemins leur existence sera belle et louable.
L'idéal.
Ordonner, c'est pas un idéal, c'est ordonner. Je pense que ça c'est très très important parce que aujourd'hui on
occulte.
Je sais pas qui.
On pense que c'est inaccessible, que c'est un idéal. La plupart des gens pensent que justement que ça fait partie des choses rêvées, ça, ouais. et non pas concrètes.
Conséquence que ça n'a pas tellement de sens que la femme s'accoude. La femme s'accoude.
Puisqu'elle le traite comme.
Elle peut pas faire ce qu'elle veut. C'est quoi la esseva ? C'est exprimer le quand je me mets comme ça. Donc quand je me mets comme ça, ouais, c'est quoi Rerout ? Je ne suis pas soumis. Je fais ce que je veux.
Voilà, c'est là où c'est la liberté.
Comment ?
C'est là où elle est sa liberté, c'est qu'elle n'est pas soumise à lui, elle fait comme lui, elle veut accoudre, elle le fait, elle ne veut pas, elle ne le fait pas. Elle exprime sa liberté en faisant ce qu'elle veut.
Non, c'est vrai qu'on ne va pas bien.
C'est facultatif. Normalement, elle est soumise à lui. Normalement.
Elle est soumise.
Mais elle choisit de se soumettre, là, c'est libre aussi.
Mais là,
elle a choisi dans un moment d'égarement. Oui, vous vouliez me demander.
Oui, c'est deux choses en fait. Déjà, je trouve le langage de Maïmonide, il y a les Chabed et Ira, un peu. Enfin, la crainte, c'est comme les parents, un peu. Enfin, c'est le même langage.
Le même langage.
Tu craindras ta mère, tu.
Il y a Mora, une appréhension. Alors regardez, on va continuer un peu. Je sais qu'il est tard, mais j'aimerais qu'on continue un peu notre sujet. Alors, qu'est-ce que c'est une femme Khashuva ? Je pense qu'une femme Khashuva, si vous l'avez dit spontanément, c'est une ministre, par exemple. Il y a des femmes.
C'est Rachida Dati.
Ouais. Ramaya, tout en cas, ouais. T'as des femmes qui sont des je sais pas, Angela Merkel. Vous comprenez, il y a des femmes parfois qui ont des statures pour elles-mêmes. Ça existe. Voilà, la prophétesse de Bora, ça existe, voilà. Alors, une femme comme ça, alors elle s'accoude par définition. Alors, continuons. Et Rabbi Moshe Serles dit, « Vechol anashim shelanu mikre chashubot. » Il s'oppose à Rabbi Yosef Karo et dit, toutes nos femmes sont considérées chashuvot. Alors, j'ai regardé l'origine, c'est le Mordechi. Le Mordechi de Rabbi Hillel était un rav qui était à Paris il y a 800 ans, enfin 700 ans. Il était à 700 ans il y a Paris. Il est, comme je dis fréquemment dans mes cours, Paris il y a 700 ans était un des centres mondiaux de l'étude du Talmud.
Il était rue Saint-Paul. Rue Pavé.
Non, il était dans l'île de la Cité, à côté de la conciergerie. Si vous lisez le livre Saint-Louis de Jacques Le Goff, il explique comment c'était les Juifs à cette époque.
Des tas de petites rues alors.
Des petites rues là, c'était là où était le quartier juif. La rue de la Harpe, vous connaissez la rue de la Harpe.
Oui, bien sûr.
À l'origine, c'était la rue de la Harpe juive, c'est là où il y avait l'Ishiva de Rabbi Yechiel de Paris, donc c'est cette époque-là.
Ah, d'accord, entre les.
Jusqu'à la brûlerie du Talmud par Louis IX, c'était la grande époque des Talmudistes à Paris. Alors lui, il dit, donc c'est pas. Il dit pas ça depuis les années 60 et le féminisme. Il dit, toutes nos femmes sont appelées Khashuvot. Alors, J'ai regardé le Mordechai, il rajoute rien, il affirme ça. Je sais pas.
Qu'est-ce que ça veut dire alors?
Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Alors, c'est la coutume. Comment dire? Lui, il veut dire le Mordechai, c'est la coutume ashkenaz. Alors, est-ce que. Je me suis demandé. Est-ce que ça vient du contexte chrétien, du monde chrétien, où qui, la femme est, comment dire, c'est pas des orientaux, quoi, c'est pas des arabes, excusez-moi l'expression, c'est pas des orientaux, quoi, on est dans un autre contexte.
Occidental.
Comment ?
Copier un peu sur la société occidentale.
Quoi. Oui, alors vous voyez ici, on voit que la halakha, elle bouge. On voit que la halakha, elle bouge. Il y a le Talmud. L'Agma dit, une femme en présence de son mari, ou bien une femme tout court, ne s'accoute pas, parce qu'elle est assujettie à son mari. Mais c'est bizarre que le Mordechai, et Rabbi Moshe Israël le rapporte, il dit, mais toutes nos femmes sont considérées chashuvot. Alors, j'ai tellement expliqué le premier avis que j'arrive plus à le comprendre, celui-là.
Mais il contredit l'autre, c'est tout.
Hein. Il contredit pas l'autre.
Quel avis, enfin,
il actualise l'autre. C'est la même chose.
Mais toutes les femmes sont importantes.
Donc c'est relié à une idée occidentale, mais ça c'est une déduction. Mais l'explication, c'est toutes nos femmes sont importantes, c'est à nos yeux, aux yeux de chaque femme se doit.
Mais on voit bien que. Les femmes dans la Torah, elles ont toujours été importantes. On voit même, j'ai coutume de dire qu'il ne faut pas faire une conférence sur la place de la femme dans le judaïsme et la place de l'homme dans le judaïsme. C'est plutôt ça le problème. Non, on voit les matriarches. Abraham, il avait intérêt à marcher droit avec la petite Sarah. Je veux dire, et Rivka, elle a bien magouillé. Yitzhak et comme ça tout le temps, je veux dire, donc elles sont chashuvot. Non, la question n'est pas qu'est-ce que veut dire Rabbi Moshe Sanz, qu'est-ce que veut dire Rabbi Moshe Sanz.
Mais de toute façon, c'est très humilié pour une femme d'être à table et de voir tout le monde s'accouder et pas s'accouder. C'est aussi une question d'humiliation. Est-ce que cette humiliation, elle est plus prise en compte par Rabbi Moshe Sanz Pourquoi ce serait
moi, je pense que c'est...
Si toutes les femmes ne sont pas
accoudées,
c'est pas
humiliant,
c'est ça.
Les femmes, elles sont pas accoudées. Pourquoi vouloir faire pareil? Les femmes, elles sont pas accoudées. Mais non, mais on avait vu ça sur le fait que la femme, elle ne doit pas vouloir faire comme l'homme tout le temps, justement, pour pourrir, on avait vu ça.
Oui.
Et on avait comparé avec l'ouverture de la mer Rouge et que les hommes se sont mis à chanter et Myriam a eu l'initiative de faire danser et jouer de la musique aux femmes et pas faire la même chose que les hommes. Elles ont une autre façon d'exprimer leur ressenti pour la même chose, mais ils n'ont pas besoin de l'exprimer de la même manière. Pourquoi faire la même chose?
Et les filles accusées, c'est pas spécialement masculin, c'est spécialement.
Non, mais en liberté, c'est les hommes qui.
Non, mais là, l'expression de liberté, tout. Toute personne qui est sortie d'Égypte, homme ou femme, est devenue libre. Les hommes ont arrêté d'être esclaves et les femmes ont arrêté d'être des esclaves. Comment ?
Les femmes ne se sont pas affranchies de leur mari en sortant d'Égypte.
Non, mais c'est vrai. C'est ce qu'on voit. Non, mais c'est.
Mais c'est pas une mauvaise chose de ne pas être affranchie de son mari.
Oui, mais c'est même c'est ce qu'on vient de voir. C'est même constructif, je dirais. Alors comment. Le Mordechai, rapporté par Rabbi Moshe Serles, dit, mais...
C'est pas le même niveau de liberté. Ou c'est...
Nos femmes, il dit pas que cette loi est caduque. Il dit, nos femmes sont toutes rachouvotes.
Mais il dit pas les femmes, il dit nos femmes.
Nos femmes.
Chaque femme, c'est indifférent.
Nashim Shelanu, nos femmes.
Elles sont toutes importantes. Les femmes juives.
Peut-être que... Mais le Talmud dit, mais il va contre le Talmud. Ouais. Non, il ne va pas contre elle. Le Talmud dit, une femme en présence de son mari ne s'accoute pas. D'accord ? Mais une femme khashuva s'accoute. Il dit, eh ben, nos femmes sont khashuv.
Mais elle a résolu le problème.
Voilà,
elle a résolu le problème. Il y a une incohérence.
Quoi
alors.
Moi, les femmes de rabbin. C'est trop fort.
Toutes les femmes qui ont des qualités. Toutes nos femmes ont des qualités, donc elles sont rachetées au vote, donc elles sont libres. Donc elles ressentent la liberté comme tout homme.
Et la nécessité du coup à nous dire, ah mais les femmes elles sont pas obligées, sauf si elles sont rachetées au vote, puisqu'elles sont toutes rachetées au vote. Donc, au final,
peut-être. Bon mais regardez, on est dans des cultures, mais ça c'est très très important. Non, c'est en voir comment la Lara bouge selon les siècles, selon les contextes, selon les cultures. Il est possible, par exemple, je sais pas, moi, j'étais jamais en Afghanistan. Il y a quelqu'un qui fréquente ici, qui a été un certain temps en Afghanistan, il m'a raconté qu'il était en Afghanistan. Mais je sais pas, par exemple, là-bas, il paraît, on a tous lu dans les journaux, qu'avec les talibans, les femmes vont pas à l'école, etc. Même soignées. Bon, alors, est-ce qu'il y a des côtés idéologiques ou non? Mais par exemple, les habits avec les femmes bidules, je sais pas comment ça s'appelle. La grosse burqa. Mais ça a toujours été en Afghanistan. C'est pas un truc qui a été inventé il y a 20 ans. Il y a des pays où le statut de la femme est extrêmement marqué, et dans d'autres pays, non. Il y a des pays où les femmes sont éduquées comme les hommes. Il y a des pays, jamais quelqu'un aurait l'idée que les femmes auraient une éducation. Jamais, ça n'effleurera l'esprit de personne. Bon, maintenant, il y a une certaine mondialisation. Mais il y a quand même des cultures. Alors peut-être c'est ça ce qu'il dit. Dans nos pays, Khashuva, c'est-à-dire... Dans nos pays, bien que c'était il y a 700 ans, mais dans nos pays, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. C'est intéressant.
Il y a 700 ans, elles n'étaient pas libres.
Comment ?
Excusez-moi de vous interrompre, il y a 700 ans, les femmes, elles avaient même en France ou dans les pays européens, pas le droit de participer à la vie politique, rien. Non mais c'est vrai, dans les chaudières, non mais c'est vrai, mais c'est vrai, la couture, c'est tout. Ça tient pas debout si le Shulchan Aruch est écrit en 1400.
Alors oui, mais c'est pas sûr, parce que... je veux pas faire des trucs un petit peu pédants, mais dans la littérature courtoise, qui est de l'époque.
Au contraire, la femme était très, très comme ça. Hein.
Dans les textes, mais pas dans la réalité, bien sûr. Les historiens, dans la littérature, mais pas dans l'histoire.
La femme était, au contraire.
La femme était quand même.
Donc la question, le débat, c'est y a-t-il une différence entre les femmes qui habitaient Paris il y a 700 ans et que les femmes qui habitaient en Palestine il y a 700 ans? Juives, on parle juives dans les deux cas. Juives dans les deux cas. Il y aurait vraiment eu des différences.
L'amour courtois, c'était quand même...
Voilà, l'amour courtois et une centralité de la femme. Centralité et notre... Si vous voulez, à la limite de ça, on voit qu'il y a des bouleversements où les maîtres prennent acte, dire dans notre culture aujourd'hui que la femme ne s'accoute pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
On ne peut pas. C'est compliqué de dire qu'à l'époque elles étaient rachouvot. À l'époque du Rama et du Shulchan Aruch, c'est compliqué de dire qu'elles étaient rachouvot. Et ensuite, il précise pas si c'est à cause de l'époque ou du contexte ou autre chose. Ça veut dire c'est...
Le Mordechai était il y a 700 ans.
Qu'est-ce que veut dire le nous? Est-ce que le
nous? Le Mordechai. Regardez, j'essaie de synthétiser. L'Agmara dit qu'une femme en présence de son mari, elle n'est pas obligée de s'accouder. Ça veut dire qu'elle n'est pas obligée. Bon, on a un peu échangé là-dessus.
Elle n'est pas obligée.
Moi, je dirais. Elle peut le faire à la limite. Mais ça ne signifie pas qu'est-ce que c'est s'accouder. S'accouder, c'est un acte qui signifie. C'est une attitude qui signifiante. Signifie, derrière écoute, ça veut dire je peux faire, je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu et les autres, je vous en. Excusez-moi pas l'expression. Une femme en présence de son mari, elle n'a pas de sens. Ok ? Rabbi Moshe Isserles rapporte le Mordechai. Le Mordechai, et j'ai vu le Mordechai dans le texte, ne rapporte pas de preuves. Il dit, de nos jours, ah oui, alors, si une femme est chashuva, elle doit s'accouder. Qu'est-ce que ça veut dire une femme chashuva? Ouais, Angela Merkel. Non, ce que je veux dire, non, ça veut dire, il y a des femmes, c'est des impératrices, quoi. C'est impératrice, impératrice, elle s'accoude, elle doit s'accouder. Ouais. C'est pas fréquent, mais c'est comme ça. Rabbi Moshe Isserles rapporte le Mordechai et dit, nos femmes sont toutes comme ça. C'est chaud quand même.
Oui, mais en même temps, on est obligé, par quelque part, de dire...
En soi, rien, là, qu'il y a un statut.
De dire que la Yeshiva, c'est pour se sentir libre. Et que ce soir, particulièrement par rapport aux autres soirs, on doit montrer cette liberté, l'exprimer de façon ostentatoire en s'installant comme ça. Et tout d'un coup, on nous dit, mais les femmes, non, sauf si elles sont chashuvot. Si elles sont chashuvot, c'est pas ce soir qu'elles ont besoin de le montrer ostentatoire. Non, c'est tout le temps. C'est, elles ont tout le
d'accord,
temps.
D'accord, mais non, non, donc, c'est étant donné qu'elles, elle a, je sais pas, par exemple, je sais pas, moi, il y a.
Non, moi, je pense que c'est.
Elle a pas, sa vie n'est pas que par rapport, on a vu dans Maïmonide, toute sa vie, son mari, etc. Machin, il y a des femmes, la vie c'est son mari, mais il y a aussi autre chose. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, vous allez dire une bonne femme. une dame. Oui, dans ta vie, il n'y a que ton mari.
Il y a aussi la zone euro.
Ouais. Bon, que ton mari,
c'est réducteur.
Non, c'est au contraire, ça peut être très très bien, ça peut être magnifique, mais il y a des réalités où c'est pas ça, il y a des réalités où c'est pas vécu, okay. Alors regardez, il y aurait encore beaucoup de choses à faire, mais j'aimerais terminer notre étude ce soir par la halakha et. Ben etzel aviv sarir eseva afilu ou rabo mouvak. Alors, un fils auprès de son père. Un fils auprès de son père doit s'accouder, même si son père est son maître véritable en Torah. Voilà. Alors, un fils en présence de son père a l'obligation de s'accouder. Un fils en présence de son père a l'obligation de s'accouder, même si son père est son maître. Ouais, même si son père est son maître. Talmid, lifne rabo, eno tsare reseva, afilu, eno rabo mouvak. Un élève auprès de son maître de Torah n'a pas besoin de s'accouder, même si ce n'est pas son maître principal. Alors, Le Mishnah Brura dit qu'un apprenti auprès de son maître qui lui apprend un métier, il doit s'accouder. Il y a, je ne sais pas, un ébéniste qui a des apprentis. Vous savez, autrefois, c'était du boulot, c'était même dur. Ouais, s'il faisait des bêtises, il le tapait. Hein. Bien. Eh bien, il y a le maître ébéniste, il invite ses apprentis au Seder de Pessah, ils doivent s'accouder. Par contre, Il y a le Rav, il invite ses élèves et ça ne coûte pas. Alors ça, c'est quand même paradoxal parce que c'est quand même la Torah qui nous apprend qu'on est libre. Ça, c'est quand même spécial.
Non, mais c'est une sorte de maître spirituel. On ne s'approchait pas de son maître spirituel.
Parce qu'il transmet la
connaissance. Oui, mais c'est la Torah qui... Quand on sort d'Égypte pour recevoir la Torah, et tu es devant ton maître de Torah...
On la reçoit, la Torah, justement. On ne s'est pas libéré de la Torah, on la reçoit.
Le maître aussi, il a le
plus à lui. Oui, on s'est libéré de tout autre esclavage, sauf celui d'Hachem de la Torah. Faire la Torah. C'est pour ça que ça coûte pas.
On a le joug de la Torah avant rien.
Comment elle comprend rien? Ah, j'aime pas quand on dit comprend. Non, on peut ne pas.
Mais c'est normal, devant son maître, il ne peut pas s'accouler. Représente la Torah.
Mais mon maître, il m'apprend justement à être libre.
Mais libre de tout sens de la vie.
Justement, voilà. Mon maître, il m'apprend justement que je ne suis pas esclave. Mon maître, il m'apprend. Moi, je croyais que... Je vous donne un exemple. Un ouvrier, il y a un patron juif. Un patron juif. Il engage... Il a un employé, je ne sais pas, il engage pour un contrat d'un mois. L'ouvrier, c'est une gemara dans le traité Baba Metzia, d'Afioun. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Pour elle, yachol achzorbo afilu bechatzi hayom. Un ouvrier, pour résilier le contrat à tout moment, sans préavis et sans pénalité. Sans pénalité. Par contre, le patron n'a absolument pas le droit. Et il a des pénalités. Mais l'ouvrier, pourquoi? Parce que c'est écrit que les enfants d'Israël sont les esclaves de Dieu et pas les esclaves des hommes. Donc moi, j'apprends ça. Moi, j'aurais peur de mon patron. Ouais, on dit non, ton patron, t'es engagé à l'égard de ton patron, mais pas soumis. Alors celui qui m'apprend ça, il m'apprend à ne pas être esclave, qu'on n'est pas esclave. Mais je suis au CEDER chez lui, je ne m'accoute pas.
Mais c'est une question de kavod.
C'est un autre sarir ou assour?
Comment?
C'est un autre sarir.
Il s'accoute. Oui, il s'accoute.
Ben justement, ce que vous avez dit.
Je t'avoue dit que ce n'est pas seulement un autre sarir, c'est qu'il ne doit pas.
Justement, vous avez dit qu'on n'est pas esclave de, par exemple, de nos patrons.
Ouais.
Donc, l'apprenti avec, avec son maître, il s'accoude.
Il doit s'accouder.
Donc là, c'est logique, quoi. Exactement. Par contre, par rapport à la Torah...
Par rapport à Hachem, en fait.
Par rapport à Hachem, on est esclave, entre guillemets, d'Hachem. Donc,
c'est comme la femme avec le mari.
Il a l'engagement vis-à-vis de Raf.
Non, mais c'est paradoxal quand même. C'est quand même paradoxal. Je veux dire, c'est un paradoxe quand même.
Parce que dans le savoir, c'est pas la même hiérarchie justement que dans une entreprise. Enfin, dans le savoir, dans la transmission du savoir, comme ça ne devrait pas être considéré comme...
La question est de vers qui on exprime cette liberté, le geste de liberté. Est-ce qu'on le fait pour soi ou est-ce qu'on le fait pour les gens qui sont autour de la table, alors soit les enfants, si on a, ou... Et donc qu'est-ce qu'on est en train d'exprimer face à son mari ou face à son maître de Torah quand on exprime un geste de liberté, ou est-ce qu'on est... Enfin, c'est bien qu'on n'ait pas un truc qui est seulement pour soi, on n'est pas dans...
S'accouder, c'est s'exprimer que je suis libre, je rends de compte à personne. Donc, si je suis en présence de quelqu'un, vous voyez que... Je ne sais pas comment exprimer les choses par rapport
à... On ne peut pas se mettre à égalité par rapport à un maître spirituel. On ne peut pas se mettre à égalité.
Pour faire le même geste, c'est se mettre... Il y a des limites à la retenue.
Et on
ne
peut pas se mettre à égalité par rapport à son mari. On ne peut pas se mettre à égalité par rapport à un maître spirituel. Alors que dans un rapport social, bon, bah, il n'y a pas d'esclavage. Donc même l'employé n'est pas l'esclave du patron. Parce qu'il y a égalité entre les hommes, mais on ne peut pas se mettre à égalité avec un maître spirituel ou avec le mari. Enfin, c'est un truc. Ça ne fait pas tant fait le même geste, c'est comme si on était du même côté, alors qu'il y a une différence. Il y a une hiérarchie.
Ouais. C'est pas un paradoxe quand même. Ben, je trouve ça un paradoxe.
On arrive à
le dire, mademoiselle, ce que vous dites, c'est juste. C'est juste que. C'est juste. Que par rapport à Hachem, je suis soumis. C'est justement cette soumission, c'est elle qui va faire que je peux être libre. Mais la liberté, si vous voulez, le paradoxe peut-être c'est ça, c'est que la perception de la liberté, nous on pourrait dire, voilà, il y a la liberté, on est sorti à la liberté elle est absolue. On voit que la liberté ici, c'est... une liberté conditionnelle. Cette liberté, nous l'idée qu'on a que dès qu'on parle de liberté, c'est absolu. On voit ici, c'est comment ? Mais c'est comme ça qu'on le perçoit. Enfin, moi, je le perçois. La liberté, c'est que je peux faire ce que je veux.
Non, même en droit français. La liberté, c'est
Ça s'arrête là où la liberté des autres.
Il y a des limites à la
retenue,
il y a des limites à...
Mais là, c'est l'expression de la liberté. Mais là, on doit exprimer notre liberté. Le soir du CEDER, on doit... Liberté, j'écris ton nom.
Par rapport à un professeur, par rapport à un enseignant, on doit reconnaître qu'on n'est pas...
Alors, par rapport au maître menuisier aussi, pareil.
Non.
Le maître pâtissier.
Oui, mais les rabbis rentrent.
Voilà, j'ai appris la boxe, voilà, il m'a appris, voilà. Le
mais c'est un savoir humain.
Voilà, et c'est lui, il m'a. Voilà, j'étais un petit voyou de banlieue. Il m'a fait de moi le champion de boxe, voilà.
De la Seine-Saint-Denis.
Le champion de boxe de la Seine-Saint-Denis. Voilà, je suis sorti de la délinquance grâce à lui.
Non, mais surtout après, c'est un savoir-faire, c'est pas un savoir.
Je lui dois tout. Et moi, tout à coup. Ah bah non!
C'est un savoir-faire qu'on transmet dans un apprentissage, c'est pas un savoir avec un S divin, spirituel, quoi. Donc il doit y avoir, on doit être soumis à la connaissance, quoi. On doit. Moi j'aimerais bien que les élèves aujourd'hui comprennent ça. Parce que par exemple, bon, quand ils ont un professeur ou un instituteur en face d'eux, il y a quelque chose, parce que l'autre il véhicule quelque chose qui est au-dessus. De tout le monde, et donc c'est un peu de cette ordre-là, c'est un respect pour le savoir, quoi. C'est un respect pour la connaissance. Donc
oui, mais ce qu'on a dit tout à l'heure, oui, mais
simplement une pratique, un savoir-faire, quoi. C'est pas aussi noble un savoir-faire, une pratique matérielle que un savoir.
La connaissance, posée, d'accord, mais c'est cette connaissance qui va nous émanciper. C'est cette connaissance qui nous émancipe.
De l'homme.
Oui, mais elle nous émancipe, mais on doit commencer par... Elle nous émancipe et à la fois, elle nous émancipe presque à condition que d'abord, on s'y soit...
Regardez,
ça reste pas moins qu'il y a quand même un paradoxe de dire qu'on doit exprimer la liberté le soir de Pessah.
Regardez, j'essaie peut-être de résumer la problématique avec notre dialogue. Rappelez-moi votre prénom.
Alice,
ce que Alice dit. C'est la connaissance, ou la Torah, disons, c'est elle qui va faire qu'on va s'émanciper, qui va nous enseigner de cette dimension de liberté dans notre existence. Alors, il y a un paradoxe, c'est qu'en présence de celui qui me transmet cela, qui m'apprend cela, ce n'est pas pertinent d'exprimer cette dimension de ce derer reroute, cette dimension de liberté. Ça, c'est quand même un paradoxe, je trouve, qu'au contraire, c'est pour montrer que je suis un bon élève. Je viens lui montrer, tu vois, comme je suis détendu en ta présence, Rabbi. Je suis un très bon élève. Au contraire.
Ce qui est étonnant, c'est quand même le fils auprès du père, voilà. Il doit s'accouder. Alors, voilà. Même si le père est
alors,
son maître.
L'Agmara dit, parce que le père, bien que le fils doit avoir un égard par rapport à son père, une crainte à l'égard de son père, mais d'office, le père, il concède, il laisse la possibilité à son fils à vivre.
Pour moi, la liberté, le sort de Pessah, on a quand même plein de règles, plein de choses à faire. Donc, c'est-à-dire, si c'était la liberté, je pense que selon la Torah, la liberté, c'est avoir des contraintes aussi.
C'est une liberté qui est régie.
Ouais, c'est avoir des choses à faire, des contraintes. Quoi.
Oui, ça s'appelle céder d'ailleurs, c'est organisé.
En fait, il faut pas faire un céder avec son rab.
Comment ? Il faut pas faire le céder avec son maître.
Parce qu'il n'y a que lui qui nous donne l'autorisation d'être libre.
J'ai dit justement, on parle d'un céder, mais le rab, quand le rab il est assis, moi je n'ai pas le droit d'accouder, je n'ai pas le droit d'exprimer une liberté, parce que le rab, quelque part, on a dit qu'il représente la Torah, et la Torah c'est la loi. Et on peut pas, on peut pas être totalement libre.
C'est cette loi qui m'émancipe.
Voilà.
Et c'est cette loi qui, elle, m'apprend de m'émanciper.
Oui, mais pas des hommes
et des femmes.
Non, il
n'est
pas d'accord.
Ok, on va réfléchir. Moi, il faut méditer. On n'a pas encore arraché le morceau.
Est-ce qu'on pourra... Je ne sais pas si on peut avoir... Parce qu'on a dit l'actualisation de qu'est-ce que c'est s'accouder aujourd'hui. Enfin, parce que oui. Ça nous parle vachement moins cette histoire de on exprime la liberté au travers de.
On n'a pas encore tout vu.
Ça serait bien de voir qu'est-ce que c'est.
On n'a encore pas tout vu.